Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 3 septembre 1939, le jour où la France entre en guerre contre l'Allemagne. En octobre 1938, Adolf Hitler réclame le retour de Danzig à l'Allemagne. Proclamée ville libre depuis 1919, sa population est à 96% allemande. Elle est liée à la Pologne par une union douanière. Les exigences allemandes sont refusées par le colonel Beck, ministre polonais des Affaires étrangères, soutenu par son opinion publique. En vertu d'une convention militaire de 1921 et du pacte de garantie mutuelle de Locarno, la France est tenue d'assister la Pologne en cas d'attaque de son territoire. Depuis le dépeçage de la Tchécoslovaquie en 1938, un courant de fermeté agite les démocraties occidentales. Sous l'impulsion de Winston Churchill, l'Angleterre entre dans la voie de la résistance au nazisme. La France est persuadée de remporter un éventuel conflit. La population est divisée entre ceux qui acceptent la perspective d'une guerre et ceux qui s'interrogent quant à l'opportunité de se battre pour la Pologne et les pacifistes qui réclament la paix à tout prix. Sitôt connue la signature du pacte germano-soviétique, Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, demande à Édouard Daladier de convoquer d'urgence le comité permanent de la défense nationale. Le chef de la diplomatie française expose ses craintes au président du Conseil. Le pacte germano-soviétique rompt l'équilibre des forces au profit de nos adversaires. J'estime que cette situation doit être exposée devant les chefs de l'armée et qu'il faut les entendre avant de prendre une décision. Réuni le 23 août à 18h, le comité conclut « La France n'a pas le choix. La seule solution à envisager est de tenir nos engagements envers la Pologne, engagements qui sont d'ailleurs antérieurs à l'ouverture des négociations avec l'Union soviétique. » Depuis mars 1939, Danzig est en effervescence. Les incidents se multiplient. Le 5 juillet, le débarquement de formations paramilitaires allemandes est annoncé. L'arrivée d'Adolf Hitler semble imminente. Les autorités polonaises perdent leur sang-froid. En définitive, il ne se passe rien. Le 1er août, la presse allemande affirme que la Pologne double le nombre de ses douaniers. Le 24 août, le navire allemand Schleswig-Holstein entre dans la baie de Danzig. Adolf Hitler apporte ainsi son soutien au Gauleiter Albert Forster, qui la veille a été proclamé chef de l'État de la ville libre. Simultanément, les Polonais intensifient leurs mesures militaires. Le Führer donne l'ordre d'attaquer la Pologne aussitôt après la signature du pacte germano-soviétique. C'est la fin des illusions entretenues par le traité de Versailles. Le premier ministre britannique Neville Chamberlain élève la voix. Devant les deux chambres réunies à Westminster, il déclare « Si malgré tous nos efforts pour sauvegarder la paix, et Dieu sait si j'en ai fait, nous nous voyons contraints malgré tout d'engager un combat qui apportera des souffrances et des misères indicibles à toute l'humanité, nous ne lutterons pas pour l'avenir politique d'une ville étrangère, mais pour le maintien de principes dont j'ai parlé et dont la destruction équivaudrait à celle de toute possibilité de paix et de sécurité pour tous les peuples de la Terre. » Après son discours, il demande au Parlement d'adopter l'Emergency Power Bill. Il obtient un vote d'adhésion par 417 voix contre 4. Adolf Hitler est inquiet il retarde l'attaque de la Pologne et fait une ultime démarche auprès des autorités britanniques qu'il espère détacher de la France et de la Pologne. Il propose à Londres une alliance étroite, allant jusqu'à s'engager à défendre l'Empire britannique là où il pourrait être menacé. Le Führer convoque l'ambassadeur français à Berlin et lui déclare « Je n'ai aucune hostilité envers la France. J'ai renoncé formellement à l'Alsace-Lorraine. J'ai reconnu la frontière franco-allemande telle qu'elle existe actuellement. Je ne veux pas de conflit avec votre pays. La pensée que je puisse être amené à combattre la France à cause de la Pologne m'est infiniment pénible. Mais les provocations polonaises ont créé pour le Reich une situation qui ne saurait se prolonger. » Il poursuit « Je vaincrai, je pense et vous croyez que vous vaincrez, mais une chose est certaine, c'est que le sang français et le sang allemand couleront, le sang de nos deux peuples également brave. Il m'est très pénible de penser que nous pourrions en arriver là. Dites-le de ma part, je vous prie, au président Daladier. » Le gouvernement français répond le lendemain avec fermeté que la paix est entre les mains de l'Allemagne. Le 28 août, le gouvernement britannique suggère à Adolf Hitler de relancer les négociations. D'abord réticent, le Führer finit par accepter. Il exige Danzig, la totalité du corridor, une partie de la Haute-Silésie polonaise. Berlin attend un émissaire polonais pour le mardi 30 août. Le lendemain, Benito Mussolini offre à la France et à la Grande-Bretagne la réunion d'une conférence pour le 5 septembre. Georges Bonnet demande à Édouard Daladier de réunir immédiatement le Conseil des ministres. Il prononce un plaidoyer en faveur de la paix et de la reprise des négociations. En pleine réunion, le président du Conseil reçoit une lettre de l'ambassadeur de France à Berlin, défendant la thèse de la fermeté et exposant des arguments contraires à ceux développés par son ministre des Affaires étrangères. L'épreuve de force tourne à notre avantage. J'apprends de sources sûres que depuis 5 jours, Hitler se montre hésitant, qu'il y a flottement au sein du parti et que les rapports signalent un mécontentement grandissant dans le peuple. Le gouvernement français décide d'attendre l'opinion de Londres. Le 2 septembre, la Grande-Bretagne et la France font connaître leur réponse à l'Italie. Les Alliés n'acceptent de négocier qu'à la condition du retrait des armées allemandes. Benito Mussolini retire alors son offre de conférence internationale. À l'aube du 1er septembre, la totalité des divisions blindées, mécanisées ou motorisées, 40 divisions d'infanterie et les 2/3 des avions allemands entrent en Pologne. À Paris, le Conseil des ministres demande au Parlement le vote de crédit qui implique l'autorisation d'engager les hostilités contre l'Allemagne pour respecter l'alliance franco-polonaise. La Chambre des députés adopte le projet de loi à l'unanimité. En Grande-Bretagne, l'opinion publique réclame une intervention de l'Angleterre aux côtés de la Pologne. Le 3 septembre à 9h, Sir Neville Anderson, ambassadeur de Grande-Bretagne à Berlin, remet le texte de l'ultimatum de son gouvernement. Dans la note que j'ai eu l'honneur de remettre à votre Excellence le 1er septembre sur ordre du secrétaire d'État pour les affaires étrangères du gouvernement de Sa Majesté, je vous ai averti que le gouvernement britannique remplirait sans hésiter ses obligations envers la Pologne si le gouvernement du Reich ne lui donnait pas des assurances satisfaisantes, qu'il avait suspendu toute action agressive contre la Pologne et qu'il était prêt à retirer promptement ses forces du territoire polonais. J'ai l'honneur de vous faire savoir en conséquence que si le gouvernement du Reich ne fait pas parvenir à Londres au gouvernement de Sa Majesté aujourd'hui 3 septembre, avant 11h du matin, heure anglaise d'été, des assurances satisfaisantes dans le sens indiqué plus haut, l'état de guerre existera à partir de cette heure entre les deux pays. La France entre en guerre contre l'Allemagne le 3 septembre 1939 à 17h. Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire. Un jour, trois livres, mais d'ici là, nous allons marquer une pause musicale avec William Scheller, qui chante Les Filles de l'Aurore, titre de 1983.
Les filles de l'aurore, je peux encore les retrouver. Elles sont autour du corps, de l'amour et de l'or, que l'on peut jouer au dé. Elles ont au fond des yeux, des rêves que l'on ignore. Quand vous dormez encore, quand l'aube les voit passer par deux, et moi je viens bien après l'aura. Quand le soleil monte à Saint-Jean, je voudrais leur dire que je t'aime encore, toi qui t'en vas tout le temps. Les garçons de l'aurore glissent leur corps dans des jeans usés. Ils passent des doigts nerveux dans leurs cheveux et s'en vont au dehors.
Écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, ce seront deux livres aujourd'hui, deux livres consacrés à l'histoire du football et plus particulièrement du football français. Tout d'abord, les 100 exploits du foot français, signé Roger Lewis et Mathieu Delattre et publié aux éditions Solar. Ce livre retrace un siècle d'exploits du football français. Les auteurs, journalistes sportifs spécialisés dans le ballon rond, débutent leur narration par la victoire de l'équipe de France face à la mythique équipe d'Angleterre par 2-1 au stade Pershing du Bois de Vincennes devant 30 000 spectateurs le 5 mai 1921. Ils évoquent également les moments intenses des rencontres de Coupe d'Europe. C'est en particulier le cas du succès de Nice face aux Glasgow Rangers par 3-1 le 28 novembre 1956, ou les prémices de la formidable épopée des Verts de Saint-Étienne, sans oublier le Stade de Reims. Les Verts confrontés le 6 novembre 1974 à Split en huitième de finale retour de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et la victoire du Racing Club de Strasbourg, opposé à Liverpool par 3-0 en 16e de finale aller de la Coupe de l'UEFA, c'était le 21 octobre 1997. N'oublions pas non plus le remarquable parcours de Bastia, qui joue la finale de cette même Coupe en 1978 contre le PSV Eindhoven. Les exploits de l'équipe de France en Coupe du Monde occupent une place de choix dans cet ouvrage avec l'épopée suédoise de 1958, la victoire face au Brésil, au Mexique, à Guadalajara le 21 juin 1986 et les deux Coupes du Monde remportées en 1998 et 2018, sans omettre la double victoire en Coupe d'Europe des Nations en 1984 et 2000. Les auteurs s'intéressent aux grands artistes du foot français, Raymond Kopa, Alain Giresse, Michel Platini, Zinedine Zidane sont ici à l'honneur. Riche de nombreuses photographies, ce beau livre propose aussi d'intéressantes anecdotes et compléments d'informations réunis dans un cartouche intitulé « L'Info Plus » qui ponctue chacun des chapitres. Sans exploit du foot français, c'est signé Roger Lewis et Mathieu Delattre et c'est publié aux éditions Solar, toujours aux éditions Solar. Un maillot, une légende de Mathieu Delahaye et Bruno Colombari. Ce beau livre évoque la riche histoire des maillots de l'équipe de France de football depuis 1904. Au fil des pages, à la remarquable iconographie, le lecteur apprend que le maillot originel est d'un blanc immaculé jusqu'en 1907, à l'exception de la première confrontation avec l'Angleterre qui se déroule au Parc des Princes le 1er novembre 1906. Les Français sont en rouge, ils sont écrasés 0-15. Le maillot bleu est porté pour la première fois le 8 mars 1908 à Genève face à la Suisse, défaite par les Français 2-1. Entre 1904 et 1914, l'équipe nationale joue parfois avec un maillot aux rayures bleues et blanches. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le maillot est toujours rayé, mais tricolore. Le bleu s'impose définitivement à partir de 1920 avec différentes déclinaisons de tons. La sélection nationale porte maintenant l'emblème du coq. En Argentine, les bleus sont confrontés à la Hongrie le 10 juin 1978 pour le premier tour de la Coupe du Monde. Il porte sur ce jour-là un étonnant maillot Kimberley, blanc à rayures vertes. Ce sera la seule fois de leur histoire. Le 20 mai 2004, pour le match du centenaire de la FIFA, l'équipe de France est revêtue d'une chemise d'antan. Autre touche d'originalité quelque peu vintage, les 29 mars et 2 septembre 2011, la sélection nationale arbore une délicieuse marinière. Un maillot, une légende, c'est signé Mathieu Delahaye et Bruno Colombari et c'est publié aux éditions Solar. Nous nous séparons en musique, après avoir remercié Lucas qui a réalisé cette émission, c'est toujours William Scheller qui nous propose « Oh, je cours tout seul », titre de 1993.
La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin ou bien tu dis c'est dommage. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul, je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne
comprends pas. Apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Pour des histoires que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. J'irai jusqu'au bout du chemin, et quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard, et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage, un matin. Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. Trop je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Où je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. S'endorment aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre. Je sais, mais je peux pas m'arrêter. Y a plus de nom sur les gars. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Oh,